France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Alice Guy effacée du générique. Le 26 juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris est célébrée de façon grandiose devant 5 milliards de téléspectateurs. La scène se transforme en scène et accueille de nombreuses séquences artistiques. Parmi elles, la mise à l'honneur de 10 femmes, dont une certaine Alice Guy. Son nom n'est pas connu du grand public, et pourtant, tenez-vous bien, elle est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, la première scénariste, la première productrice pour une œuvre prolifique. Elle a côtoyé les plus grands, les frères Lumière, Georges Méliès, Buster Keaton, et même le plus grand des plus grands, Charlie Chaplin. Alors, comment comprendre que son existence ait été à ce point effacée des annales alors qu'elle était en son temps une véritable star? Et comment est-elle parvenue, à tout juste 22 ans, à contribuer à la naissance du cinéma au cœur d'une période où les femmes étaient vouées à rester dans l'ombre? Nos invités aujourd'hui, Nathalie Masduro et Valérie Urrea. Elles ont réalisé ensemble le documentaire Alice Guy, l'inconnue du 7e art, diffusé sur Arte en 2021. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Sophie Bobert. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, David Leprince.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Paris, mars 1895. C'est le cœur battant qu'une jeune fille se rend dans le quartier de l'Opéra. Elle s'appelle Alice Guy, elle a 21 ans. En cette fin de siècle, la capitale est foisonnante. Et ce jour-là, Alice le sait, elle joue gros. Oui, elle mise beaucoup sur ce rendez-vous professionnel. Surtout depuis qu'elle a claqué la porte de son précédent emploi, secrétaire dans une usine de vernis. Les hommes y étaient si misogynes. Des mecs, quoi. On l'avait prévenu pourtant. Le poste de secrétaire est rarement offert aux femmes et la vie de bureau peut s'avérer aventureuse. Mais la jeune fille est douée pour taper à la machine. Et elle n'a pas froid aux yeux. De toute façon, elle n'a pas le choix, elle doit gagner sa vie. Arrivée au 57 de la rue Saint-Roch, elle vérifie que sa lettre de recommandation est bien au fond de sa poche et elle pousse la porte du comptoir de la photographie. En l'absence du directeur, c'est son fondé de pouvoir, un certain Léon Gaumont, qui la reçoit. La suite, elle la raconte dans ses mémoires.
Derrière un grand bureau, un homme encore jeune et à la figure énergique écrivait. Timidement, je lui tendis ma lettre d'introduction. Il la lut, puis m'examina en silence et dit enfin « La recommandation est excellente, mais la place est importante et je crains que vous ne soyez trop jeune, mademoiselle. » Tout mon espoir s'écroula. Alors je lui répondis d'une voix suppliante « Oh, ne vous inquiétez pas, cela me passera. » Il m'examina de nouveau et me dit d'un ton amusé « C'est vrai, hélas, cela vous passera. » Eh bien, essayons.
Bien, Léon Gaumont lui donne sa chance. Mais il se méfie. Cette mademoiselle Guy n'a aucune expérience. Or, la photo est un gros enjeu, un secteur en pleine expansion. La France entière est fascinée par cette discipline qui frise la magie. Comprenez, parvenir à saisir la vérité d'une scène ou d'un regard, ça bouleverse le public. Plus qu'une mode, c'est un phénomène de société. Et chacun rêve de passer devant l'objectif, les grands bourgeois, bien sûr, mais aussi les scientifiques, les politiques et les artistes. Pasteur, Hugo, Georges Sand, Charcot... En somme, pour être moderne, il faut passer devant l'objectif de Carja ou de Nadar, les photographes stars. Dans Paris, les publicités fleurissent et on compte plus de 500 studios. Car le peuple lui aussi se prend d'amour pour l'objectif. Certaines familles économisent des mois pour se faire tirer le portrait. Alors du côté des professionnels, on s'interroge, lequel de ces studios raflera la mise? Léon Gaumont est l'un de ces hommes qui en rêvent. Oh, ce n'est pas un artiste, hein, c'est un homme d'affaires. Un industriel qui rêve de mettre la main sur l'appareil le plus moderne, celui qui dépassera, ringardisera tous les autres. C'est lui qui donne sa chance à Alice et qui lui indique ses conditions de travail. 8h-20h, 6 jours sur 7. C'est dur, mais la jeune fille tient le coup. Et désormais, Léon lui fait confiance. surtout lorsqu'un méchant procès pousse le comptoir à fermer, eh bien c'est elle qui encourage Gaumont à créer sa propre société. Ce sera la compagnie Gaumont, dont l'un des actionnaires n'est autre que Gustave Eiffel. Rapidement, l'entreprise s'impose dans Paris. Sourire aux lèvres et curiosité en bandoulière, Alice apprend vite et devient incollable.
Il me fallut me familiariser avec les dimensions des plaques, la diversité des papiers, des produits chimiques, les différents noms des appareils, leur qualité, les obturateurs, le foyer des objectifs. J'y parvins heureusement assez vite, et bientôt, mes chefs trouvèrent que je perdais beaucoup de temps en allée et venue. Ils m'installèrent dans le bureau directorial, ce qui me permit d'être au courant de tout ce qui se passait dans la maison et de connaître nos principaux clients.
Ses clients, Émile Zola, c'est chic. Le premier ministre Valdec Rousseau, pas mal non plus. Le directeur de l'opéra ou la belle Otero. Et peu à peu, Mademoiselle Alice, oui c'est ainsi qu'on l'appelle à l'époque, se rend indispensable. On lui propose même de poser pour la publicité. Les réclames, disait-on en ces temps lointains. Boucle brune relevée en chignon façon belle époque, regard concentré sur l'objectif. C'est bien elle, une femme, qui vante les mérites de la nouvelle invention de Gaumont, le stéréospido, grand prix de l'exposition universelle, section photo. Quelle période fascinante! Alors chaque matin, Alice quitte l'appartement qu'elle partage avec sa mère, quai Malaquais, et traverse la Seine en direction de la rue Saint-Roch, le cœur battant. En quelques mois, sa vie a pris un vrai tournant. Cela dit, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Elle n'a que 21 ans et déjà, sa vie ressemble à un roman. Alice naît le 1er juillet 1873 à Saint-Mandé. Mais très vite, ses parents la laissent aux grands-parents pour retourner vivre au Chili. Son père, Émile, y fait fortune dans les livres. Il est à la fois libraire et éditeur à Santiago et à Valparaiso. Une vraie success story. L'homme a les moustaches de Gaulois et l'âme d'un pionnier, bien que dans la sphère intime, il soit très conservateur. Sa femme a tout quitté pour lui. Elle lui a donné 5 enfants, dont Alice, la petite dernière. Une enfant qui, d'emblée, étonne et détonne. N'a-t-elle pas sur le visage quelque chose qui rappelle la tribu Mapuche dont s'occupe sa mère à ses heures perdues? Autrement dit, se pourrait-il que son véritable père soit un Indien qui passait par là? Nous ne le saurons jamais. Alice passe ses 3 premières années seule chez sa grand-mère dans une ambiance bucolique et aimante, jusqu'au jour où ses parents la réclament. Direction le Chili, et une épopée de 7 semaines à travers l'Atlantique qui forge son esprit imaginatif.
Seul enfant à bord, je deviens bien vite le chouchou des passagers et de l'équipage. Je me souviens du long ruban d'or que la lune déroulait jusqu'à l'horizon, de la mer phosphorescente, des poissons volants, de la traversée de l'équateur. À Saint-Vincent, dans les Bahamas, la rade grouillait de requins. Puis, nous côtoyâmes la Patagonie et je me souviens qu'un Fuégien, à peu près nu, mais coiffé d'un superbe chapeau, monta sur le pont. Enfin, nous entrâmes dans le détroit de Magellan et pour moi, la féerie commença. Le navire avançait lentement entre 2 murs de glace. Mon imagination peuplait chaque caverne, chaque cascade de fées et d'animaux étranges. J'étais bien certaine d'avoir vu des ours blancs venir au clair de lune, surveiller notre passage. Mais ma mère m'a informée qu'il n'y avait là aucun ours, aucune fée. Aujourd'hui encore, je n'en suis pas certaine.
Très vite, la petite fille prend ses marques. On lui présente sa nurse, Conchita, qui lui apprend l'espagnol et comment monter à cheval. Mais hélas, 3 ans plus tard, voilà qu'à nouveau on la renvoie en France. Direction le couvent du Sacré-Cœur, à la frontière suisse. Un vrai choc. L'ambiance y est épouvantablement austère. Messe à 6h, repas en silence et gare au faux pas. Pour les offenses minimes, ce sont de longs ajouminements, les bras en croix dans un couloir glacé. Pour les péchés graves, la cellule au pain sec et à l'eau. Le mitard façon Bénitieu. Jusqu'au jour où, au Chili, un incendie ruine la famille. Puis vient la mort de son frère, âgé de seulement 17 ans, un drame dont son père ne se relèvera pas. C'est ainsi qu'en l'espace de quelques mois, Alice se retrouve seule avec sa mère. Alors quoi? Trouver un mari, à l'instar de ses 3 sœurs? Pas son genre. Non, s'occuper Alice, c'est l'aventure. L'idée d'être maîtresse de son destin et de rejoindre Gaumont chaque matin. L'ambiance y est si stimulante. Artistes, banquiers, scientifiques, tous se fréquentent et tous s'épient. C'est à la fois Paris et la ruée vers l'or. Comme durant ce jour de décembre 1895, lorsque les frères Lumière débarquent pour voir Léon Gaumont. Alice raconte cette scène en 1957 au micro de la RTF.
Au bout de quelques temps, nous avons reçu la visite de Louis et Auguste Lumière. Et ils ont invité Gaumont à une soirée qu'ils donnaient. Alors j'étais là et ils m'ont dit « Mademoiselle Alice, voulez-vous assister aussi ?» Évidemment, j'ai accepté avec grand plaisir. Nous sommes donc allés, je crois que c'était, si je me souviens bien, boulevard Saint-Germain. Et quand nous sommes arrivés là, les Lumières avaient déjà installé un drap et ils préparaient un petit appareil dans le fond de la salle.
Mais on dirait une lanterne magique, ça n'a rien d'extraordinaire.
Attends, tu vas voir.
Mais oui, regarde, ça bouge.
La lumière s'est éteinte et nous avons vu apparaître sur l'écran des choses qui sont devenues classiques, c'est-à-dire l'arroseur arrosé, une partie de cartes. Enfin, c'était la naissance du cinéma.
Cette projection est une déflagration. Comment partir et parvenir à projeter au public des scènes qui s'animent? La science mêlée à l'art vient de faire un pas de géant. Le lendemain soir, les frères Lumière dupliquent leur expérience dans le salon indien du Grand Café sur les grands boulevards. Devant les images de la sortie d'une usine, les spectateurs écarquillent les yeux. Puis, voyant le train foncer en direction de la caméra, certains crient ou s'enfuient, persuadés que le convoi va sortir de l'écran. Témoignage sur France Culture dans les nuits magnétiques.
Un soir, mon père est rentré à la maison et il nous a dit « Je suis stupéfait, je viens de voir une lanterne magique dont les images marchent. » Et entre autres, il y a un train qui est rentré dans la salle. Alors, ça l'a tellement impressionné qu'il nous en a parlé, puis tout le monde était d'une certaine incrédulité. Et puis finalement, il a dit, si vous voulez pas me croire, moi, je vais vous emmener. Et alors, à ce moment-là, nous sommes allés, en effet, moi, j'avais 7 ans, quoi.
En famille?
Oui, oui, tous, tout le monde. Il y avait même du monde dans la salle, qui n'était pas extrêmement grande. Les gens n'allaient pas là, comment dirais-je, pour voir une chose artistique, ils ne savaient pas. On allait pour tout, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'image qui marche sur une toile? Ça stupéfiait tout le monde.
Et rue Saint-Roch, ça bouillonne. Désormais, chacun le sait, il va falloir commercialiser au plus vite ce genre de machine. Gaumont réfléchit, bien sûr. Tandis qu'Alice a déjà sa petite idée pour, comme elle dit, faire mieux.
À ce moment-là, on continuait à prendre dans les rues des scènes de rue, des petites choses arrivées en gare, etc. Et moi, j'étais fille de libraire et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas.
Une affaire de jeune fille, Léon Gaumont mesure mal à quel point le public a besoin de rêves, de comédies ou de tragédies pour transcender le réel. Voilà pourquoi l'idée de filmer des scénettes le laisse dubitatif, Monsieur Gaumont. Vous dites l'art ? Vous plaisantez, Alice est ma secrétaire. Mais Alice est lucide. Dans ses mémoires, elle écrit ces mots terribles. Si on avait prévu le développement que prendrait l'affaire, je n'aurais jamais obtenu son consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout concourait contre moi. Oui, tout joue contre elle, mais Gaumont est bon prince. Il lui permet d'essayer ses quelques scénettes, tant que cela n'empiète pas sur ses obligations, l'entendu. Grâce à la dot de sa femme, il a hérité d'un terrain sur les hauteurs de Belleville, près des buts de Chaumont. Eh bien, c'est là, rue des Alouettes, qu'il a fait construire les ateliers Gaumont qui fabriquent ses machines en série. À côté, il y a ce jardin en friche, là, avec cette terrasse bitumée. Pourquoi ne pas tourner ici? C'est pratique. Oui, sauf que le terrain est nu. Alors Alice se démène. Elle fait appel à un artiste pour peindre une verrière, puis à des menuisiers pour créer de gros choux, et à l'une de ses copines, Germaine Serrant, pour endosser le rôle principal. À ce stade, ne lui reste plus qu'à trouver 2 ou 3 bébés et la scène pourra être filmée. Ce sera une fable de 52 secondes. Son nom, la fée aux choux.
Alors, mesdames et messieurs,
Un peu de silence. Le film que nous allons tourner ensemble s'appelle La fée aux choux.
Quand vous croisez des moutons groupés en peloton grimpant sur un piton, quand vous croisez des moutons qui vont casser la croupe, que les moutons soient bretons, qu'ils soient de Charenton, à Paul ou à Gaston, ils sont moutons, gloutons, dit-on, tonton, tontaine, tonton. Pensez-vous, oui, pense-t-on, en voyant ces moutons avancer à tâtons, oui, tous ces moutons piétons avancer sur la route. Comment le papa mouton, parmi tant de moutons, reconnaît son fiston? Ça, c'est coton, comme dirait-on, tonton, tontaine, tonton. Les voyez-vous? Tant de moutons. Même pour un papa mouton, le plus beau du canton, qui aurait du piston, rien ne résout le sait-on cette angoisse sans problème. Car dans tout ce peloton, à chacun nous comptons quatre à pattes un menton. Pour un mouton, c'est le bon ton. Tonton, tontaine, tonton. Et pour les enfants moutons, les petits rejetons, les pauvres chatons, hélas, nous nous répétons, le problème est le même. Et papa mouton n'est pas murmure-t-on, piqué des hannetons. Tant de moutons sont leurs tontons. Tonton, tontaine, tonton. À compter tant de moutons, de ville en pleine, parfois ne nous prendrait-on pour des moutons.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Alice Guy.
Affaires Sensibles sur France Inter.
Cinématographe, on est allé une fois, tu te rappelles?
Ça fera deux.
Oh bah j'ai eu mal aux yeux.
Oui, bah tu les fermeras. Ce qu'il faut, c'est se mettre à l'abri.
Entrez, mesdames et messieurs, le cinématographe. L'invention du siècle. Une heure de courir, une heure d'oublier. Vous verrez à l'intérieur la boutique magique. L'homme qui court après sa tête. Retirons Marie sa fille. Entrez, mesdames et messieurs.
Alice a 22 ans et des idées plein la tête. D'autant que sa fée aux choux est un succès. Alors bien sûr, elle propose d'autres scénettes. Mais quand les tourner? Elle travaille tant. Actionnaire de l'entreprise, Gustave Eiffel prend sa défense. Et c'est lui qui conseille à Gaumont de la délester de son poste de secrétaire. Bon, Gaumont soupire. Puis il la nomme finalement responsable de la production cinématographique de la maison. Et surtout, il lui laisse carte blanche. Alice cumule alors les fonctions de régisseuse, scénariste, réalisatrice, directrice de production, directrice artistique. Elle est de toutes les décisions, de toutes les innovations. Même lorsqu'elles sont le fruit du hasard. Elle appelle ça les petites choses intéressantes. Son opérateur, le fidèle Anatole Tiberville, en sait quelque chose. Avant de la rencontrer, il élevait des poules dans la Bresse. Alors parfois, en maniant ses machines infernales, il se trompe. Et sur la pellicule surgissent des effets stupéfiants. Accélération, fondu, surimpression. Providentiel.
J'ai suivi la carrière de Mademoiselle Guy. Ne vous fiez pas à son allure fragile et charmante, car le gant de velours cache une poigne de fer. Son sourire est celui d'une femme, mais son talent est celui d'un homme.
Merci, monsieur Eiffel.
En 11 ans, Alice réalise 400 courts-métrages. Le succès aidant, elle tente tout. Comme cette idée extravagante de se faire filmer en plein travail devant son équipe. Eh bien, sans le savoir, elle vient de créer le premier making-of de l'histoire. Mais ce qu'elle préfère, c'est mettre en avant des thèmes qui lui sont chers. L'injustice sociale, le désir, la misogynie ou la bêtise humaine, gisement d'inspiration inépuisable. En tout cas, tout est précurseur. Et le plus beau, c'est que ça passe. Tant qu'on peut rire. En 1905, elle éprouve toutefois le désir de changer de registre. Avec Esmeralda, elle propose une adaptation de Notre-Dame de Paris. C'est une première. Puis vient La vie du Christ, le premier péplum, 35 minutes de pellicule, 35 tableaux et des centaines de figurants. Le public l'ovationne et la ville de Milan lui décerne même une médaille d'argent. Léo Gaumont est fier, mais il s'interroge, car Alice a 34 ans et elle n'a pas l'air de vouloir se calmer. Se marier ? Hors de question. Et elle sait bien que de ce point de vue, elle dérange.
J'ai vite compris cette évidence. Aussi longtemps qu'une femme reste à ce qu'on appelle sa place, elle ne subit aucune vexation. Mais dès qu'elle assume les fonctions généralement réservées aux hommes, on la regarde de travers.
Pourquoi avez-vous mis votre nom sur les cartons ?
Mais parce que c'est moi qui ai fait les films.
Vous ne devriez pas, pour les acheteurs, une femme...
Quoi, ça ferait mauvais effet ?
On en reparlera.
En France, nous sommes des femmes, et uniquement des femmes. Nous nous trouvons dans un état de dépendance et nous n'avons aucune chance d'exercer nos facultés en toute liberté. Il y a des exceptions, bien sûr, mais elles sont rares.
Certes, mais pour combien de temps ? Derrière elle, les esprits s'échauffent et la concurrence fait rage. L'aimable secrétaire est devenue omnipotente. Dans son ombre, ses assistants s'impatientent. Parmi eux, le jeune Louis Feuillade. C'est lui qui un jour créera la série des Fantomas. De son côté, Gaumont mise sur une nouvelle machine qui permet de poser des voix sur des images, une sorte de playback. Son nom, le chronophone. Est-ce un hasard ? C'est en tout cas cette machine porteuse d'avenir qui va éloigner Alice de Paris. Cette rupture, c'est Gaumont qui va la provoquer en lui présentant un homme, Herbert Blacher, qui surgit dans sa vie comme un coup de tonnerre. Est-ce un opérateur, un représentant de commerce, un dandy ? Un peu détroit. Et voilà qu'il s'impose sur le tournage de son prochain film en Camargue. Alice l'avoue, la Camargue est un décor très romantique. Or, dès la fin du tournage, Gaumont les réunit à nouveau, cette fois à Berlin, pour qu'ils vendent ensemble un maximum de chronophones. Est-ce un hasard, là encore ? Après quelques semaines passées auprès d'Herbert en Allemagne, Alice revient fiancée. Bonne nouvelle ? Tout dépend du point de vue.
À notre retour, Monsieur Gaumont nous ménageait une autre surprise. Il nous annonça qu'il avait cédé l'exploitation des brevets du chronophone à deux exploitants américains de Cleveland, dans l'Ohio, et promis de leur envoyer un spécialiste pour les aider à démarrer. Il avait choisi Herbert Blacher en raison de sa connaissance de la langue pour occuper ce poste. Deux mois plus tard, mariée depuis trois jours, je quittais le cœur gros, ma famille, mon pays, persuadée que j'abandonnais pour toujours mon beau métier.
Alice voit juste. Elle ne mettra plus jamais les pieds au studio de Belleville. Désormais, c'est Louis Feuillade qui la remplace. Le pressent-elle sur le bateau qui l'amène à New York ? Ou pense-t-elle à sa mère qui, en son temps, quitta elle aussi la France pour accompagner son mari au Chili ? Se demande-t-elle pourquoi les femmes doivent à ce point sacrifier leur propre vie pour celle de leur mari ? D'autant que l'adaptation à la culture américaine s'avère difficile. Elle découvre qu'elle est enceinte et surtout, elle s'ennuie. Elle, qui régnait sur un empire, se sent soudain larguée, restreinte. Elle enrage de se sentir si vulnérable alors que l'Amérique offre tant d'opportunités.
Aux États-Unis, le cinéma était encore dans les limbes et les Américains jouaient sur les mots en décernant à Thomas Edison le mérite d'avoir inventé le cinématographe. Les kinétoscopes parlors fleurissaient dans tout le pays, c'est vrai, mais il ne s'agissait nullement de projections. C'était simplement des appareils comme ceux qu'on pouvait voir à Paris sur les boulevards au XIXe siècle.
Pourtant, le pays entier commence à s'équiper. Alors Alice saisit sa chance. En septembre 1910, elle réunit 100 000 dollars et propose à son mari de créer un studio de cinéma à Forlì dans le New Jersey. Hollywood n'existe pas encore. Son nom, la Solax. C'est plutôt heureux et c'est efficace. En quelques années, Alice réalise plus de 200 films. Le public adore sa créativité, son audace, la modernité de sa technique. Bien avant Buster Keaton, elle crée les comédies Splastics, qui consistent à exagérer les gags. Résultat, tous les comiques veulent tourner avec elle et signer avec les comiques. Les stars du glamour sont là, elles aussi, à l'instar d'Olga Petrova ou de Bessie Love. D'autant que pour vanter les charmes de la Solax, Alice crée un service chargé de la publicité. C'est le début du Star System. Mais ce n'est pas non plus Alice au pays des merveilles, car dans les studios, le glamour n'est pas de mise. Explication avec Emmanuel Gaume. Dans son livre « Alice Guy, la première femme cinéaste de l'histoire », livre publié chez Plon en 2015.
Merci, reposez-vous, on change de décor.
Alice tourne chaque semaine avec ce même mot d'ordre, « Be natural », une consigne qu'elle placarde dans tous les studios.
Sidonie, ma chérie, il faut apprendre à marcher droit. Tu me dandines comme un canard, c'est très vilain. Et l'ombrelle, n'oublie pas de la tenir en arrière, sinon tu vas tout cacher.
Elle ordonne aussi aux comédiennes de se démaquiller. Elle les oblige aussi à n'apprendre aucun texte. Elle leur raconte l'histoire de ce qu'elle veut tourner, et c'est tout. Il y a une sorte d'instinct visionnaire en elle.
Non, non, arrêtez, ça va pas du tout. Pierre, je te répète que tu es jaloux, malhabilement jaloux de ta femme, alors montre-le, habite ton personnage.
Dans son film The Ocean Wave, qui date de 1916, elle met en scène une jeune femme aux cheveux courts, en salopette, qui marche pieds nus. C'est d'une modernité incroyable.
Vous, c'était bien, peut-être un peu raide. N'oubliez pas que vous êtes très amoureux dans cette scène.
À la fois nouvelle vague et acteur studio avant l'heure, Alice est en avance sur tout. Et c'est peu dire que les stars lui obéissent. Elle vient d'avoir son deuxième enfant et tout lui sourit. Alors, elle touche à tout, les westerns, les cascades, les animaux sauvages. Mais au-delà du folklore, ses thèmes restent très engagés. Usine, orphelinat, hôpitaux psychiatriques. Preuve en est ce film Fool and His Money, réalisé en 1912, où elle met en scène le tout premier long-métrage dont les acteurs sont tous afro-américains, et de le distribuer dans toutes les salles. La même année, elle tourne Angel et Mina, où pour la première fois, un baiser est échangé entre deux hommes. Vous imaginez le scandale pour l'époque? Eh bien, pas tant que ça. Sa French Touch fait d'elle un phénomène, et les journalistes se pressent pour la rencontrer. L'un d'eux titre « Alice Blaché, une figure puissante du cinéma, comment une Française a créé un empire ?» En quelques années, elle est devenue la seule femme à gagner plus de 25 000 $ par an. Outre-Atlantique, cette version féminine du self-made woman, pour le coup, ne laisse personne indifférent. En 1914, interviewée dans la revue Moving Picture World, elle s'étonne même, et avec quelle candeur, que les femmes ne saisissent pas davantage l'éventail de possibilités merveilleuses que leur offre le monde du cinéma. Des possibilités qui attisent également les convoitises. Ainsi, constatant le succès de la Solax, Herbert décide de s'y fondre pour le meilleur et pour le pire.
J'avais lâché les rênes de la présidence à Herbert, mais désormais, je n'assistais plus à aucun conseil d'administration. Herbert disait que j'aurais gêné les hommes qui désiraient fumer leurs cigares en paix. Je compris bien vite ce que signifiait être la femme d'un producteur.
Mais elle n'a pas tout vu. Car en quelques mois, Herbert lance sa propre compagnie qui absorbe la Solax avant d'enchaîner les mauvais placements en bourse et de tout vendre pour une bouchée de pain. Contrit, voilà qu'il part pour Hollywood, le nouvel Eldorado du cinéma. Nous sommes en 1918 et déjà les grands studios s'organisent. Fox, Warner Bros, United Artists, tous sont là pour prendre la relève. Alors Alice s'interroge. Certes, Hollywood promet une météo sympa, des loyers abordables et une vraie douceur de vivre, mais est-elle prête à ne plus être la bosse? Et tandis qu'elle tergiverse, voilà qu'un incendie ravage son studio de Forlì. Alice a 45 ans et voit son monde partir en fumée. Repense-t-elle à son père, dont la librairie chilienne avait été incendiée? Redoute-t-elle à son tour un changement de vie définitif? Elle le pourrait. Car bientôt, voilà qu'Herbert la quitte pour refaire sa vie avec une jeune actrice sur la côte ouest. La mort dans l'âme, flanquée de ses deux enfants, la pionnière décide, comme sa mère au même âge, de rentrer en France. Direction Nice. Ou réfugiée chez sa sœur, son premier réflexe est d'écrire à Léon Gaumont. Une lettre qui commence par ces mots. Cher monsieur Gaumont, la vie est de plus en plus dure et j'ai besoin de travailler. Hélas, Gaumont lui explique qu'il ne peut rien pour elle. Pourtant, son idée de faire des studios de la Victorine à Nice, une Hollywood française, est excellente. Mais Gaumont lui répond que l'investissement est trop risqué. Très bien, alors pourquoi ne pas la laisser réaliser un nouveau film ? Elle n'est plus toute jeune, certes, mais elle a été si productive aux États-Unis. Elle a tourné près de 600 films. Elle a une immense expérience. Eh bien, une fois de plus, Gaumont refuse de donner suite. Pire, il l'exclut de son ouvrage recensant l'histoire de son empire. En cause, le fait que les premiers films de cinéma n'étaient pas signés, les génériques n'existaient pas encore et qu'il l'aurait tout simplement oublié. Un vrai choc pour Alice.
Je découvris plus tard que Léon Gaumont m'avait supprimé de l'histoire officielle de sa société. Mon nom n'apparaissait nulle part. Lorsque je protestais, il me répondit « Mais ce n'est pas moi qui fais les catalogues, Alice. Et puis, c'est si peu important. » Vous savez, ma carrière féminine m'a valu bien des amertumes.
D'autant que peu à peu, Alice Guy découvre que nombre de ses anciens assistants l'ont spolié. Sa très belle fée aux choux a été attribuée à Henri Gallet, sa vie du Christ à un certain Victorin Chassé. Ne retenez pas ces noms. Commence alors sa dernière croisade, celle de ne pas se laisser effacer de l'histoire, justement. Et la voilà qui traque les articles défaillants, convoque les historiens, les journalistes et harcèle Gaumont en personne. Dans l'attente de sa réhabilitation, qui ne viendra que 30 ans plus tard, Alice vend ses bijoux, ses tableaux et commence à écrire ses mémoires. Au crépuscule de sa vie, constatant l'essor spectaculaire du cinéma, elle lâche ces mots qui en disent long sur l'idée qu'elle se fait de la liberté et de la condition des femmes. Elle dit « Je pense qu'on a fait des progrès énormes, mais je pense aussi que je n'aimerais pas être metteur en scène maintenant. » Je n'aurai pas assez des coups des franges. Aujourd'hui, Alice Guy, effacée du générique. Et on en parle avec nos invités, Nathalie Masduro, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Et Valérie Urrea, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé toutes les deux le film intitulé Alice Guy, l'inconnue du 7e art, pour Arte Prod, en 2021. Film pour lequel vous avez reçu le prix du meilleur documentaire au French Film Festival de Los Angeles. Donc déjà, bravo.
Merci.
Maintenant, soyons honnêtes, si on va dans la rue et qu'on dit aux gens « Connaissez-vous Alice Guy ?» Je pense qu'il y a un certain nombre de risques pour qu'on nous réponde souvent « Non ». Bon, mais ça va changer tout ça. Est-ce que c'est cette invisibilité scandaleuse, hein, révoltante, qui vous a motivé pour faire ce film, Nathalie Masduro ?
Évidemment, la révolte, la colère, c'est toujours un bon moteur. Et puis, vous savez, moi j'ai eu la chance de faire une école de cinéma qui s'appelle la Fémis.
Ah bah oui, la Fémis, la plus connue. Hein.
Voilà, une bonne école de cinéma avec des grands professeurs d'histoire du cinéma, comme Jean Douchet. On nous a appris les grands maîtres et la Nouvelle Vague, mais... jamais un mot sur Alice Guy. Donc, on pouvait passer des heures à parler d'Eisenstein, du cuirassé Potemkin, sans nous dire qu'il avait été inspiré par Alice Guy pour faire ce film. Et franchement, comme étudiante en cinéma, comme jeune réalisatrice, savoir à ce moment-là qu'une pionnière, une femme, avait pu être à l'origine de notre vocabulaire cinématographique actuel, je pense que ça m'aurait donné un petit peu de force et de courage pour commencer ma carrière.
Valérie Urrea, si je vous disais vous êtes une femme, vous avez le talent d'un homme, j'en prendrai deux, ça sera bien, bien mérité. C'est quand même ce qu'on a entendu là dans les archives, c'est extraordinaire ce paternalisme, ce machisme, ce rapport de domination, il est incroyable. Là.
Oui,
enfin, il est incroyable, c'est l'époque en même temps. Hein.
Oui, c'est une époque et puis c'est des siècles de domination, donc tout d'un coup ça se révèle au cœur du cinéma, mais ça a mis des années, puisqu'on voit que pendant 11 années, Alice Guy va réussir à créer. Il faut savoir, par exemple, quand elle arrive aux États-Unis, le cinéma il est réservé pour les femmes et pour les personnes juives. Donc c'est un cadre sur lequel il y a énormément d'émancipation, on va dire, et de liberté pour créer.
Et notre récit s'est achevé sur son retour en France et sur le refus de Léon Gaumont de l'aider. Alors sa vie ne s'arrête pas là. Hein. Durant des années, elle va tout faire pour se faire justice. En 1936, Gaumont lui envoie un exemplaire de son livre « Les établissements Gaumont ». Et là, c'est un choc pour Alice. Elle ne voit pas ce qu'elle devrait voir. Racontez-nous. Qui, Nathalie, Valérie, qui veut raconter ?
Oui, bah c'est... Oui, merci. C'est terrible parce que d'un coup, dans ce catalogue, nulle part n'apparaît son nom. Et alors là, on imagine dans quel état elle se trouve. On va retrouver plus tard ce fameux catalogue qu'elle a entièrement annoté en disant « faux, non, c'est moi ». Enfin bon, elle va réclamer justice jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Elle va se battre pour retrouver ses films qui ont tous disparu. Elle va mourir sans avoir retrouvé un seul de ses films. C'est dramatique. Et par ailleurs, elle va aussi se porter en faux contre tous ces articles qui paraissent, qui nomment Germaine Dulac comme la première femme réalisatrice en France, ou qui ne cessent de l'invisibiliser. Et contre Gaumont, en effet, c'est une rancœur plus personnelle, hein, puisqu'ils ont eu un long compagnonnage. Et comment expliquer que son nom n'apparaisse pas une seule fois sous la plume de cet homme.
Je pense, en plus, c'est un peu complexe. Il faut voir, tout d'un coup, il y a le fait d'être oublié et le fait d'être marginalisé aussi, c'est-à-dire d'être
mis oublié, de côté. Oui, oublié, c'est une excuse qui n'est pas valable, d'ailleurs.
Voilà,
hein. C'est terrible, déjà. Mais on sent que c'est une excuse, quoi, que c'est plus grave que ça.
Oui, c'est plus grave que ça. Alors, c'est complexe. C'est comment est-ce qu'on fait l'histoire aujourd'hui? De quelle manière on va la regarder? Qui est-ce qui va l'écrire? Il faut savoir qu'à cette époque-là, ce sont des hommes, surtout, qui écrivent l'histoire. Il y a de nombreux facteurs qui rentrent en compte. Il y a des facteur de continent, puisqu'elle crée en France et aux États-Unis. Donc déjà, c'est deux mondes quand même séparés. Et puis ensuite, à l'époque, les films n'ont pas de générique. Donc il y a juste le nom, en fait, de la production. Alors ils mettent, pour être sûrs de ne pas perdre leur film, ils font des sortes de petits cartons qui posent à un moment dans l'image pour qu'on puisse reconnaître que c'est la Solax, par exemple. Mmh. Et lorsqu'à 83 ans, elle part aux États-Unis pour retrouver ses films. Elle n'en trouve aucun, puisque tout le catalogue a été racheté par une autre société, et que, du coup, c'est cette société qui a changé le nom de ses films. Donc là, c'est un puits sans fond, c'est-à-dire qu'elle va essayer de chercher, mais ne pas trouver.
Mmh. Alors, même problème, vous disiez, l'histoire est écrite par des hommes, même problème avec l'historien du cinéma Georges Sadoul, qui publie en 1947, on a eu le temps d'y réfléchir, pourtant en 1947, il publie son histoire du cinéma et tous les films d'Alice sont attribués à un certain Henri Gallet.
Eh oui, il va expliquer à Alice, qui s'en inquiète quand même, il va lui expliquer qu'il a appris ça par « oui dire ». Alors, pour un historien, c'est un petit peu léger quand même. Hein. Et voilà, donc il suffit qu'un ancien technicien, soit son assistant, son décorateur, enfin bref, dise « Ah ben, en fait, c'est mon film » pour qu'apparaisse le nom de ce monsieur dans son histoire du cinéma. Et alors, il va retrouver Alice Guy chez elle en Suisse. Elle va lui dire, elle va essayer de remettre les choses un petit peu en place. On peut dire qu'il traîne la patte quand même pour remettre le nom d'Alice en haut de la liste.
Est-il exact que durant ces années parisiennes, la concurrence entre scénaristes était si féroce qu'Alice était obligée de mettre ses scénarios sous clé ?
Alors ça, on s'est beaucoup amusé à essayer de trouver des correspondances entre les films lorsqu'on a réalisé notre documentaire. Et en effet, dans le film, on voit justement en parallèle des films réalisés par Ferdinand Zecca, par Georges Méliès et par Alice Guy. Et en effet, on s'aperçoit que les scénarios sont exactement les mêmes, les poses, enfin voilà, les actions. Donc en effet, on peut se poser la question de savoir si ça ne se volait pas.
Mmh.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Nathalie Masdiro, Valérie Urrea. On va écouter un extrait de votre film Alice Guy, l'inconnue du 7e art, au moment où elle a été une vraie lanceuse d'alerte au sujet des viols des femmes sur les tournages, évidemment avec des résonances puissantes, hein, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
Nous avions des voisins, des gens terriblement pauvres, puisque nous étions à Belleville. Et il y avait une vieille grand-mère qui avait une fillette qui avait 12 ou 13 ans, peut-être. Elle est venue me demander de prendre sa petite fille dans la figuration. Je lui ai dit, écoutez, moi, je ne peux pas la surveiller. C'est à vos risques et périls, parce que, vous savez, les figurants là-bas, c'est pas la crème. Alors, le soir, je dis, je vais la mettre dans ma chambre. Et j'assais, mon assistant et sa compagne sont venus me dire, oh, écoutez, mademoiselle, vous êtes tellement fatiguée, nous allons la prendre avec nous. Je dis, il est avec sa femme, ça va bien. Alors il s'est passé des choses absolument dégoûtantes.
Ce sale type, comme elle l'appelle, elle l'a fait mettre à la porte. Une décision que le milieu du cinéma lui reprochera très longtemps. Car enfin, cet homme si talentueux, pourquoi ruiner sa carrière ?
Que dire de cet épisode, Nathalie Masdiro ?
Qu'il résonne étonnamment avec aujourd'hui, bien sûr. On pense évidemment à Adèle Haenel ou Judith Godrèche, et on leur rend hommage pour leur courage, pour leur prise de parole. Donc, cette prise de parole, c'est dans les années 60 hein, qu'elle parle de ça, Alice Guy. Et cet extrait qu'on a inséré dans notre film n'avait jamais été diffusé jusqu'à présent. Et nous, il a évidemment attiré notre attention parce que ça résonnait tellement, tellement fort avec ce qui se passe dans le cinéma aujourd'hui. Donc, c'est prise de pouvoir par des hommes hein, qui abusent de leur situation sur des jeunes actrices, des figurantes, là, en l'occurrence.
Valérie Urrea, vous voulez ajouter quelque chose sur ce thème ?
C'est là où je reviens à cette idée d'être marginalisée aussi. Je pense qu'elle a été mise de côté. Elle a été oubliée, évidemment, mais mise de côté. Entre autres, pour ses témoignages, quand on pense à ces rushs qu'on a découverts, c'est vrai que ça a été... Un vrai choc pour nous, évidemment, et qu'il était essentiel pour nous de le mettre dans le film. Cette femme est d'un immense courage, et c'est bien pour cela aussi qu'elle a été, je pense, poussée par Léon Gaumont pour partir à ce moment-là aux États-Unis.
Nathalie Masdiro ?
Oui, on l'a trouvée un petit peu rabat-joie, voilà. Elle disait des choses qu'on n'avait
pas dire, qu'on n'avait pas envie d'entendre.
Mais non, pas du tout, exactement.
Alors, parlons de son talent maintenant. On l'a vu dans le récit, Alice Guy est très moderne, elle invente les gros plans, les films de cow-boys, elle placarde Be Natural. Façon de jouer ce que les Beatles reprendront après avec leur chanson Act Naturally. Donc c'est déjà l'Actor Studio plus la nouvelle vague, Valérie. C'est...
Oui, elle a une invention. Je pense qu'elle est d'une grande ouverture, d'une grande sensibilité. C'est vrai que très jeune, déjà, elle est ouverte à l'injustice sociale puisqu'elle suit sa mère dans les œuvres lorsqu'elle va s'occuper d'ouvrières, de travailleuses. Mais c'est vrai aussi que aux États-Unis, elle va aller dans les ghettos, elle va aller dans les prisons, elle va aller dans un grand nombre d'endroits, et ça va lui ouvrir comme ça un espace incroyable avec la réalité. Donc c'est vraiment chaque fois transcender le réel, c'est puiser dans son imaginaire. Elle a un imaginaire qui vient de son enfance justement, où elle lisait tous ses livres, et à la fois de pouvoir transcender le réel.
Est-ce qu'on peut voir dans certains de ces films américains une esquisse de Thelma et Louise, par exemple, Nathalie Masdiro ?
Je pense que c'était une féministe, hein, cette Alice Guy. Elle a fait des films d'ailleurs là-dessus, que ce soit les résultats du féminisme, oui, ou l'année 2000, qui est aussi une espèce de film de science-fiction sur le jour où les femmes prendront le pouvoir et les hommes seront nos esclaves. Donc elle est marrante.
Hein. Vous avez le temps encore. Hein. Les progrès sont faits, mais c'est lent.
Voilà.
C'est ce que disent beaucoup de femmes.
Et puis c'est une façon de déplacer le regard, c'est une façon de regarder différemment en fait les femmes. C'est vrai qu'elle ose par exemple montrer des marâtres, enfin elle a un film qui s'appelle La Marâtre où elle ose montrer aussi les folles, les tueuses, enfin, mais comme des vrais personnages, ça c'est super important. Et puis aussi elle va faire des femmes cow-boys, elle va... en fin de compte elle a une autre façon de déplacer le regard sur les femmes.
Et tout simplement, elle les met au centre de ses films. Ce sont, elles, les héroïnes.
Ouais. Alors, il faut attendre, malgré tout ça, les années 70 pour que le premier festival de films de femmes, Musidora, projette deux films de sa période américaine, fournis par l'American Film Institute of Washington. Et que dans la foulée, les éditions de Noël publient ses mémoires. C'était un succès ?
C'est resté, je pense, c'est resté assez dans la confidentialité. Moi, j'ai été avec proche des milieux féministes dans les années 80, des milieux féministes qui gravitaient dans le cinéma. C'est vrai que c'est là où j'ai eu pour la première fois connaissance. J'étais très jeune. J'ai eu connaissance avec Alice Guy. J'ai l'impression que c'était vraiment une première. C'était assez confidentiel quand même.
Alors, dans les années 90, son nom émerge lentement. En 2022, Gallimard réédite enfin ses mémoires dans la collection Imaginaire. Et le critique Jean-Michel Frodon déclare « Son histoire a été racontée, mais pas entendu. C'est intéressant, ça.
Oui, parce que
c'est une jolie formule, elle est juste en plus.
Elle est magnifique. Elle a mis tant d'années à se battre justement pour faire éditer ses mémoires sans que personne ne s'y intéresse, personne n'en veuille. Donc c'est après sa mort, en 68, elle est morte en 68, donc c'est bien après sa mort que ce sera publié. Et en effet, il faut attendre quand même les années 2000 pour qu'on la redécouvre, que Scorsese la mette à l'honneur et qu'aujourd'hui, on travaille avec elle.
Comment il a mis à l'honneur ?
Il a fait un hommage lors d'un gala du syndicat des réalisateurs américains. Il a dit que Alice Guy était une réalisatrice exceptionnelle d'une sensibilité rare, au regard incroyablement poétique et à l'instinct formidable. Voilà, il lui rend hommage en fait et il lui décerne un prix posthume. Donc c'est assez beau. Et il faut compter aussi en 2010, quand même, il y a la première conférence à la Cinémathèque française sur Alice Guy, qui a un titre quand même assez incroyable. La conférence s'appelle « Alice Guy a-t-elle existé ?» Donc,
complètement contre-productif, ça.
C'est complètement, complètement. Alors, c'est vrai qu'on sent qu'il y a toujours cette réticence intégrer Alice Guy au panthéon du cinéma.
C'est pire que tout. A-t-elle existé ? C'est pire que tout.
C'est pire que tout.
J'en profite pour dire un petit mot sur Henri Langlois, le grand chef de la Cinémathèque pendant des années. Alice Guy s'est vraiment tournée vers lui pour lui demander de retrouver ses films. Elle lui a adressé des courriers en lui disant « Mais sonnez à la porte de tel institut, allez voir là, je suis sûre que vous allez trouver mes films. » Il lui a répondu « Oui, oui, madame. » Et rien ne s'est passé. Voilà. Et il n'a rien fait pour elle. Donc, je pense que la Cinémathèque, aujourd'hui, vous savez, a rendu à peu près... On pense qu'il y a 7% des hommages qui sont rendus à la Cinémathèque qui sont consacrés à des femmes. Personnellement, je trouve ça peu, non ?
Ben oui, en proportion, oui. Du nombre de femmes qui existent dans le monde, c'est peu.
Oui, alors on a eu la chance, nous, de voir des documents qui avaient été confiés à Francis Lacassin dans les années 70. Francis Lacassin était un historien un peu particulier du cinéma et il avait rencontré donc Alice Guy et c'est vrai qu'il avait pu récupérer des documents. Alors c'est très très émouvant de voir combien Alice Guy a noté. Enfin, et c'est grâce à tout ça qu'une nouvelle mémoire. Mais cette mémoire est toujours entourée de polémiques jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a toujours des historiens qui se bagarrent, même sur à savoir si elle a été vraiment la première réalisatrice de films de fiction ou pas.
Alors, dans les années 80, c'est une période encore moderne, c'est pas si loin. Le producteur Daniel Toscan du Plantier, à qui l'on donnait le bon Dieu sans confession. Il pouvait tout dire, même parfois n'importe quoi, mais ça passait toujours. C'était Toscan du Plantier. Eh bien, il déclarait encore, dans les années 80, qu'Alice Guy était la secrétaire de Gaumont. Dans les années 80.
Et oui, elle est renvoyée à son premier poste, comme si elle n'avait pas quitté sa machine à écrire.
Ah oui.
Comme si elle n'avait pas dirigé pendant 11 ans le plus grand studio de cinéma du monde, les studios Gaumont. Comme si elle n'avait pas été la productrice la mieux payée des États-Unis pendant 5 ans au moins. Et voilà, qu'est-ce qui reste d'elle ? Sa machine à écrire.
Oui, et c'est d'ailleurs une circonstance aggravante, le fait qu'elle était une star aux États-Unis.
Oui, parce qu'on peut penser aussi que Léon Gaumont lui en veut un petit peu quand il oublie, pas, cet oubli de 11 années à la tête de ses studios. On peut penser que Léon Gaumont est un petit peu jaloux de son succès aux États-Unis parce que lui-même a essayé de s'implanter là-bas et ça a été quand même plutôt un échec cuisant pour lui. Et voilà, peut-être un petit peu de jalousie.
Valérie Urrea, vous travaillez actuellement sur une autre... Toutes les deux d'ailleurs ?
Oui, oui.
Bien. Vous travaillez actuellement sur une autre figure importante et peu connue du grand public, Eva Adams, dite Eva Kochever. On en dit un mot ? Il nous reste 30 secondes.
Oui, c'est une jeune femme lesbienne juive polonaise qui est migrante aux États-Unis dans les années 20, encore une histoire oubliée, et qui a été déportée pour trouble à l'ordre public, donc, et pour avoir publié un livre indécent. Donc, c'est une très belle histoire qui est complètement en résonance avec l'actualité terrible que nous vivons aujourd'hui.
Alors, je prends des notes parce que cette histoire, on va la raconter également, mais après la diffusion de votre diffusion, pas avant, je vous le promets.
Merci.
Merci Nathalie Masdiro, merci également Valérie Urrea. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Et affaire sensible aujourd'hui, Alice Guy, effacée du générique. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Thévenot.